de retour à l'émission Au gré du temps avec nous, Sylvie Paquette-Lessard. Le Dieu fidèle auquel vous adhérez est parfois malmené dans le monde d'aujourd'hui. Trouvez-vous?
L'image qu'on s'en fait est malmenée. En fait, on s'en fait une fausse image souvent. Et oui.
Alors, quel est-il pour vous, ce Dieu?
C'est l'amour. Quand je pense à Dieu, je pense moins à Dieu. Si on ressort nos concepts chrétiens de Dieu, Père, Fils et Esprit, je suis beaucoup plus proche du Christ et je dirais du Jésus, de l'homme de Nazareth, l'être humain qui a incarné par excellence l'utopie de Dieu sur l'humain. Pour moi, puis il y en a eu d'autres après lui, qu'on pense à Gandhi, il y a eu d'autres grands hommes, Martin Luther King aussi. Pour moi, Dieu, c'est Jésus, c'est celui qui se fait proche des hommes et des femmes qu'il rencontre. C'est l'esprit aussi, c'est ce souffle qui nous habite, c'est son souffle qui nous habite encore aujourd'hui puis qui nous inspire, j'ose le croire, à faire le bien.
Blaise Pascal, et j'aimerais que vous me commentiez cela, a dit « Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. » Est-ce que ça vous rejoint?
Dont on s'approche sans orgueil
et sous lequel on s'abaisse sans désespoir.
Et j'ajouterais « sans humiliation ». Moi, j'ai une relation très, comment dirais-je, ça va avoir l'air tellement prétentieux, mais
très
je sais pas,
intime,
mais presque égalitaire. Je parle à mon Dieu face à face et sans humiliation, sans honte, sans comme un papa, comme une maman, ou encore mieux, mon mari a cette belle expression, il dit « Pour moi, Dieu, c'est un grand-père. » Pour moi, parce qu'un parent se sent une responsabilité de corriger, d'élever, de remettre dans le droit chemin. L'amour des grands-parents, moi qui ai 9 petits, qui ai 10 petits-enfants,
on a
eu un nouveau,
oui.
Je me trompe dans mes chiffres, là, mais c'est tellement gratuit comme amour. Les parents ont une responsabilité immédiate, puis nous autres, on a juste à les aimer. Ben, je pense que Dieu, c'est un peu comme ça. Alors, quand on se retrouve face à lui, tu sais, il y a pas de malaise, il y a pas de... C'est juste la simplicité de l'accueil et du don.
Est-ce que vous pouvez concevoir que des gens puissent vivre, exister, sans cette notion de Dieu, d'être complètement athée, de faire abstraction de cette idée de Dieu, comme certains la lèguent? Mmh. Est-ce que c'est imaginable pour vous?
Oui. Oui, ça se peut. Et il y a des gens, un de mes enfants est totalement... En fait, il disait athée à l'époque, maintenant il dit agnostique.
Quand même une différence appréciable.
Depuis qu'il a eu des enfants, il se dit plus agnostique qu'athée.
Intéressant.
Alors, mais... Et on peut mener une vie bonne, une vie saine, une vie morale en étant athée. Le seul problème, à mon avis, c'est l'espérance. Quand ça va mal, on perd l'espérance. Est-ce que Dieu est l'opium du peuple? Comme c'est Marc, je pense, qui disait ça, que le Dieu est l'opium du peuple. En tout cas, est-ce que c'est mal d'avoir une source d'espérance? Moi, je préfère la vie avec une espérance. Et c'est pas comme l'espoir, c'est pas comme le souhait. L'espérance, c'est quelque chose de fort, de profond. C'est dans les assises de la personne humaine.
Yves Duteil,
oui.
Les gens sans importance.
Oui, ça c'est... Pour moi, on est tous des fois des... On a tous l'impression qu'on est des gens sans importance. En tous les cas, moi, j'ai cette impression-là des fois. Qu'est-ce que je suis dans le monde? Mais pour les gens qui nous entourent, on est quelqu'un, je pense.
Ce sont des gens sans importance, avec des gestes quotidiens qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Ce sont des gens sans artifice qui vous sourient quand ils sont bien et vont cacher leurs cicatrices parmi les fleurs de leur jardin. Ils ont le cœur un peu fragile et la pudeur de leur chagrin leur donne un doux regard tranquille, un peu lointain. Ce sont des gens sans importance et qui parfois ne disent rien, mais qui sont là par leur silence quand ils sont loin. Moi j'ai le cœur en plein décembre, l'ami Pierrot s'en est allé en emportant mes chansons tendres et ton passé et tous les mots sans importance qui résonnaient dans la maison mais qui sont lourds de son absence dans ma chanson. Cela qu'on pense quand la mort vient rôder pas loin en emportant notre insouciance un beau matin à tous ces gens sans importance avec lesquels on est si bien qui font renaître l'espérance et sans lesquels on n'est plus rien.
Entendre Yves Dutheil et avec nous Sylvie Paquette-Lessard qui a quand même une responsabilité importante, on le mentionnait en début d'émission. Vous êtes sur une espèce de comité aviseur au plan des soins palliatifs au CHUM?
Des soins spirituels.
Des soins spirituels. En fait, mais c'est quand même près de l'unité des soins palliatifs?
Ben, c'est beaucoup plus large.
Plus large, oui.
C'est beaucoup plus large. Avant, il y avait dans les hôpitaux des aumôniers.
Oui.
Maintenant, il y a un service de soins spirituels et il y a des accompagnateurs de soins spirituels qui sont dans les hôpitaux maintenant et qui rencontrent les gens. Ça peut être les gens qui sont là pour deux jours ou en fin de vie ou dans l'unité de cancérologie ou de... et qui sont là pour être une présence pour les gens qui le veulent. Et maintenant, c'est un service qui est non confessionnel. C'est un service qui apporte une écoute, un soutien, un soin, parce qu'on a un programme de formation à l'université, à la faculté, pour justement former les intervenants en soins spirituels qui sont appelés à travailler en milieu de santé. Et le CHUM est un petit peu avant-gardiste à cet égard-là parce qu'ils ont voulu vraiment, dans l'organisation de leur service, ben, les autres hôpitaux ont un service de soins spirituels, mais eux, ils ont vraiment un comité aviseur qui donne son avis. C'est vraiment ça, sur l'organisation des soins spirituels, l'organisation des stages particulièrement, parce que tous nos étudiants doivent aller faire un stage de 8 mois en milieu de santé.
J'imagine cependant, puis on ne peut pas éviter la question, elle n'est peut-être pas facile, mais toute la question de cette loi qui est maintenant entrée en vigueur en décembre dernier sur les soins de fin de vie, qui a amené aussi, parce que vous êtes près de l'Assemblée des évêques du Québec, à prendre position contre l'application de cette loi. Et ça irrite beaucoup de gens de voir que, encore une fois, l'Église n'a peut-être pas compris la séparation entre l'État et l'Église.
Oui, effectivement. Ben, je pense que l'Église, sur cette question-là, comme sur bien d'autres, serait malvenu de ne pas se prononcer. Je pense qu'elle a, si elle garde, elle n'a plus d'autorité, mais elle peut exercer encore un leadership d'influence, que j'appelle.
D'accord.
Où elle est cette voix qui doit rappeler la dignité de l'être humain dans une société de jetable après usage.
Donc, sa mission, c'est encore de promouvoir la culture de la vie plutôt que la culture de la mort.
Oui, mais en même temps, quand on dit ça, c'est la culture de quelle vie? Est-ce que juste la vie biologique, voilà, c'est encore la vie dans toute sa plénitude? Il y a des cas, moi, où, sur un plan personnel, et là, j'engage personne d'autre que moi-même, je me dis, est-ce que Dieu veut qu'on maintienne la vie jusqu'à un état qui n'est plus la vie? Bon, je suis pas très esprit de sacrifice. Ouais. Tu sais, j'ai pas ma spiritualité n'est pas sacrificielle.
Mais est-ce que ça vous crée, vous, un malaise quand vous entendiez, par exemple, le président de l'Association des évêques, Monseigneur Fournier, dire que cette aide médicale à mourir était une forme déguisée d'euthanasie? Ce sont des propos qui sont quand même assez clairement établis.
Ouais.
Et je ne crois pas que l'esprit de la loi qui découlait d'un travail quand même très rigoureux,
oui,
auprès de nombreux conseillers, de gens qui travaillent aussi dans le domaine spirituel, qui mm-hmm. travaillent auprès des personnes en fin
souffrance.
De vie, en souffrance, et qui ont permis l'adoption d'une loi unanime de tous les représentants élus de la population.
Oui.
Il y a un malaise, là,
oui,
quand même.
Oui, il y a un malaise. Si c'était des questions simples à traiter, puis je n'en dirais pas...
On les traitera pas en 30 secondes.
Non, exactement. Tu sais, on réglera pas la question à ce micro. Moi, je pense que la peur qu'il y a, c'est toujours qu'à un moment donné, il y ait des dérives pour toutes sortes de mauvaises raisons. Tu sais, des fois, qu'une personne ne veuille pas être... qu'on mette fin à ses souffrances, mais pendant ce temps-là, elle coûte cher au système de santé. Tu sais, quelles sont les dérives possibles? Moi, je pense qu'ils ont raison, les évêques, de mettre en garde là-dessus. De là à dire, est-ce que l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie? Est-ce que la personne s'euthanasie elle-même? Est-ce que c'est un suicide assisté pour quelqu'un qui n'est plus en mesure de le faire elle-même? Mon Dieu, que c'est des questions complexes.
Imagine no possessions.
Imagine, c'est toujours agréable d'entendre cette chanson.
C'est une, je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux, pour moi, deux chansons. Moi qui aime la musique francophone, les deux chansons qui pour moi sont des chansons phares, c'est « Wonderful World » et « Imagine ».
Il est simple, mais à la fois tellement profond.
C'est un idéal de société qu'on voilà. se propose. Hein? Oui. C'est un idéal de monde dont on rêve. Et adviendra-t-il? Je ne suis pas certaine, moi, parce que l'être humain étant ce qu'il est, il est capable du meilleur et du pire, et les deux se côtoient. Et souvent même, dans notre propre cœur, des fois, les deux se côtoient.
Bien, on va enchaîner tout de suite avec ce propos-là, tout de suite avec la chanson de Richard Desjardins.
Ah, oui.
Vous en avez choisi une belle.
Oui, oui.
Le cœur est un oiseau, Richard Desjardins.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de l'amant, ils s'envolent encore. Les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, plus chaud, le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel, pauvre. Liberté, liberté, liberté.
Sylvie Paquette-Lessard, qui est avec nous aujourd'hui, qui a un doctorat en théologie. C'est une femme. On peut être étonné. Il y a sûrement des auditeurs qui se disent, ah, vraiment, une femme?
Et c'est pire à part de ça. C'est pas un doctorat comme tel en théologie, mais c'est spécialisé en études bibliques.
Alors, quand même.
Là, quand on regarde l'étude de la Bible, on a l'impression de voir des vieux monsieur barbus, oui. Là, qui... Et non, il y a beaucoup de femmes en études bibliques.
Et vous, vous évoluez en plus dans un secteur, au plan personnel, vous me disiez que la paroisse à laquelle vous appartenez est une paroisse très vivante.
Oui, oui, oui. Moi, je ne serais pas capable, je pense, d'aller à la messe encore à tous les dimanches si... Il s'y tenait des propos insipides, inodores, incolores et sans saveur. Pour moi, il faut qu'il y ait de la substance, il faut que ça vienne rejoindre à la fois mon cœur, mais mon intelligence aussi.
Et quelle est cette paroisse?
La paroisse Trinité-sur-Richelieu à Belleuil-McMasterville.
Alors, c'est une paroisse vivante.
Oui.
Il y a un parcours catéchétique,
oui,
j'y présume.
Oui, tout à fait. Et il y a les prêtres qui sont là. En tous les cas, leur parole rejoint quelque chose dans ma vie. Puis c'est tellement drôle à part de ça. Ils font l'homélie, puis là, des fois, ils me regardent dans le banc. Je suis assise en avant, là. Puis là, ils me regardent, puis ils essayent de voir si je suis scandalisée ou si je trouve que leur exégèse a de l'allure.
Alors, ils viennent chercher votre approbation, oui, d'une certaine façon.
En tous les cas, c'est tellement drôle. Des fois, même le vicaire de la paroisse m'appelle, puis il dit, Sylvie, j'ai une homélie à faire sur telle affaire, là. Qu'est-ce que tu dirais sur tel point? Moi, j'ai un problème, là. Je trouve ça très valorisant.
Oui, absolument.
Puis de dire, ben coudonc, il y a des ressources dans le milieu. Pourquoi penser qu'on a, parce qu'on est prêtre, on a la science infuse? Non. Si on peut tous ensemble travailler à... Puis c'est pas parce que c'est moi, là. Mais si on peut tous ensemble travailler à ce qu'ils se disent quelque chose d'intelligent dans nos églises, puis il y en a sûrement plusieurs dont c'est le cas, mais
qu'est-ce que vous diriez, justement, on a à peine effleuré la question du désengagement de ces gens qui ne sont pas ou qui ne fréquentent pas l'Église, qui ne sont pas présents, mais qui demeurent quand même croyants.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on devrait faire pour refaire en sorte que les foules soient présentes?
Ben moi, je pense que les foules présentes, faut oublier ça. Mais je pense qu'il faut réinventer de nouveaux lieux de sociabilité chrétienne, des lieux où les gens pourront partager leur quête existentielle, pas nécessairement dans le cadre de l'assemblée dominicale qui peut ne plus rejoindre des gens. Puis je pense pas que ça revienne nécessairement. Je suis pas nostalgique, mais je me dis, ça exige de nous, chrétiens engagés, d'inventer de nouvelles manières d'être chrétiens.
Qu'est-ce qui fait que vous y êtes encore présente, nonobstant le fait que vous avez quand même un parcours au plan de la théologie et des études bibliques, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore accrochée à cette présence dominicale?
Je pense que dans la vie qui va vite, qu'on se donne une heure dans notre semaine pour réfléchir, pour s'asseoir,
donc
pour s'intérioriser.
Parole.
Oui, la parole, toujours la parole, mais la communauté aussi. Quand je rencontre des gens que je connais, que je côtoie, que je vois pas nécessairement... Il y en a quelques-uns que je peux voir en dehors de l'Assemblée dominicale, mais pas tant que ça. Mais il y a comme une famille, là, puis on a des points de reconnaissance. Et ça, c'est précieux.
C'est réconfortant.
C'est...
nourrissant.
Juste bien d'avoir des lieux où on n'est pas des anonymes. Oui, c'est ça.
Intéressant. Je vous propose un petit jeu avant de terminer parce que le temps nous glisse entre les mains.
Ah,
je vais vous dire
temps.
Quelques mots. Je veux juste ce que ça évoque rapidement chez vous.
OK.
Alors, si je vous dis amitié.
Fidélité.
Regret.
Regret. Peine.
Engagement.
Action.
Oh, tiens. Service.
Don.
Amour.
Mon mari.
Et le plus difficile, probablement, même s'il semble facile, Église. Et là, vous avez le droit de mettre deux, trois mots.
Église, communauté, peuple de Dieu en marche.
Bien, on va sûrement se souvenir de cette Église en marche. Ça a été notre premier propos il y a deux semaines et on termine avec une Église en marche. Merci d'avoir été présent, Sylvie Paquette-Lessard.
Ça fut un plaisir.
Ça a passé vraiment très rapidement. On va vous souhaiter de pouvoir, peut-être, sans faire du prosélytisme, être présente sur plusieurs tribunes parce que vous avez un propos qui est moderne, qui est vivant et qui est à la fois inspirant. Alors, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté. Armand Dubois, l'animation et réalisation. On va se quitter encore avec une autre version de « J'y souvenir encore », Claude Dubois. Revenez-nous la semaine prochaine, au plaisir.
J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie, j'apprenais à mentir, pourquoi vieillir. J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partage, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux, Duvigier, Putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue sanguineuse, adieu mon coin vitré. Et ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Un peu de mes pensées.